Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint. Ce soir, nous avons la joie d'avoir dans nos studios de la rue d'Assali, Leïla Boutaleb. Bonsoir Leïla, merci beaucoup d'être venue.
Bonsoir, avec plaisir.
Alors Leïla est venue soutenir et lire les textes de son ami Abdelmajid Kawa. Abdelmajid, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venu, Majid. Alors, tu es un des familiers de cette émission et maintenant, depuis quelques années, une des figures...
Ça fait presque deux décennies.
Oui, oui, et oui, le temps passe. Une des figures majeures de la poésie toulousaine, des poètes présents dans notre cité. Donc Abdelmajid Kawa, qui est arrivé dans notre ville dans les années
1994,
exactement. Oui. Et qui depuis est resté, bien sûr. Est
devenu Toulousain d'adoption.
Et qui est notre collègue, puisqu'il anime une émission dans laquelle nous faisons beaucoup référence, en particulier sur notre site les-poètes.fr, sur Canal Sud, ici à Toulouse, je crois que c'est le mardi.
Lundi.
De quelle heure à quelle heure?
De 19h à 20h, et c'est sur Canal Sud Toulouse. Sur internet, c'est www.canalsud.net et ça se nomme Oxymore.
Oxymore. Alors Oxymore, nous mettons souvent d'ailleurs le programme que tu établis de cette émission sur notre site les-poètes.fr. Alors Majid...
En fait, c'est moi qui dois te remercier parce que j'ai trouvé une écoute... attentive très tôt dès mon arrivée. On a encore quelques témoignages papier et photos sur les accueils que j'ai pu avoir ici à Radio Occitanie dans ton émission de poésie, pour une émission de langue haleine. Et donc aussi te remercie pour la coopération que Oxymore a pu avoir grâce à tes diverses interventions dans la programmation. Et donc, c'est en te rencontrant que, à un moment où parfois il arrive que l'on vacille un peu, on se dit la poésie, à quoi bon, à quoi sert la poésie, que peut la poésie, etc. Et en te rencontrant, je me permets d'ouvrir cette parenthèse, j'ai repris un peu, disons, espoir et espérance dans les pouvoirs de la poésie. Eh ben, merci Christian Saint-Paul.
Merci Majid, et tu sais que nous avons le même combat.
Et ce n'est pas un échange de politesse.
Nous avons le même combat, Majid. Alors, pour te présenter, on va écouter Leïla.
Lorsque Abdelmajid Kawa vient à nous, à vous, à la suite d'une longue séparation, il manifeste une émotion souriante à laquelle on ne peut résister. La cordialité qu'il met aux retrouvailles, la gentillesse qui émane de lui, la chaleur de sa parole, autant de signes qui font de ce poète un être fraternel. J'ai désiré les mots à l'image de mes amitiés et l'histoire bazar qui aide les oiseaux. Il y a dans son visage, à la barbe chenue, une invite permanente à l'échange amical, voire à la confidence. Dès l'abord, bien plus de vicissitudes que traverse le pays, il vous parle de poésie. Comme si ce type de recherche que pratiquent encore chez nous quelques élus revêtait une quelconque importance aux yeux de la multitude. C'est que Kawa est poète jusque dans la chair de son cœur. Presque trop poète, oserais-je prétendre. L'envie me montant à la tête. Tandis que j'écris ces lignes, j'entouvre son recueil, par quelle main retenir le vent. À tous les coups, une vision de nature s'impose, tout juste et non moins transcendée. On croirait que son regard possède le pouvoir de saisir le détail qui fait mouche et qui, grâce à un art ô combien subtil, s'élargit, s'approfondit, prend une allure inattendue pour en définitive nous donner un frisson délectable, une sorte de jouissance provoquée par des accords qui teintent au plus intime de soi. Je plante mon arbre là où l'eau broie la chevelure du soleil, écartelée entre deux ateliers de violence. Et c'est l'amour sur les chemins parallèles des hommes, hommes de ce jour. La pluie n'est que silence qui trompe son entourage, un nuage de bruit qui pénètre par tes yeux. Ce qui me touche particulièrement en Kawa, c'est son sens intime de la nature. Il la vit au long des heures, des jours, des saisons. Il célèbre les liens qui unissent l'homme aux éléments du monde, ciel et terre, bêtes et plantes, sources et demeures. Il repose sa flûte sur la croupe d'un nuage et récite son présent aux bêtes qui sèment dans les buissons. Il approche de l'aube, il escalade la haute tension pour hurler à son peuple la mort du jasmin. Ma vive admiration pour les très brefs sens de par quelle main retenir le vent s'explique peut-être par mon goût de l'extrême concision du langage, y voyant une sorte de limite à atteindre, où le mot acquiert un surcroît d'éclat, où chante le silence, où la phrase se tait, rompue, où toutes les valeurs semblent renversées, ce que j'aime encore dans les poèmes de Kawa. C'est qu'il ne suit aucun autre chemin que celui, à flanc d'abîme, qui nous conduit d'un itinéraire toujours plus difficile, où la parole poétique exige un air toujours plus pur, une plus haute solitude, sans référence à toute autre poésie. Où il n'est plus question que de vos corps allongés face à la mer, comme des rames ayant bien servi, l'arrière-mémoire où l'on va nu pour ne pas effrayer les oiseaux. Sa constance dans l'arpentage d'un même domaine naturel, la symbiose que l'on redécouvre toujours entre l'être et l'environnement, une harmonie gracieuse, voilà qui mérite qu'on s'attache à cette poésie d'une facture personnelle. Kawa n'est pas un chercheur de forme. Le message ici impose l'écriture, et c'est en ce sens que je parle d'harmonie. Souvent, le poème ne capte qu'un instant furtif, un éclair de vie, un reflet qui passe. Le bonheur, nous l'inventons, au ras de nos brûlures, à la crête de nos feux d'artifice clandestins. Ou encore, vous avez entendu son chant, il est passé à l'aube, a tracé sur vos portes un signe clair, voyageur de l'espérance ouvrière. La pensée et la démarche kawatienne s'inscrive tout entière dans l'exploration et l'écoute, coquelicot de la victoire, rouge blessure du peuple, dont les sourdes résonances se retrouvent à chaque page d'un beau livre qui s'est touché l'esprit et le cœur. Lieu ouvert, par quelle main retenir le vent, se lit comme une patiente leçon sur un chemin qui, sans artifice et avec le naturel d'une source, nous ramène toujours vers l'homme. Pénétrante avec pudeur dans le domaine de notre destinée, Kawa garde presque magiquement cette distance, jamais silencieuse, d'un regard dont la lucidité n'est pas dénuée de tendresse.
Merci, Leïla Boutaleb. Alors, de qui est ce texte?
De Jamal Amrani, qu'il avait publié dans El Watan en octobre 1994.
Donc, ça veut dire, tout à fait, on parlait de cette période, c'est-à-dire au moment où tu es arrivé, donc il y avait déjà ce portrait excessivement dense hein, du poète, et on peut dire que depuis cette période, s'il devait reprendre ce texte, il ne pourrait que le densifier, c'est-à-dire que le poète est devenu encore plus imprégné de cette poésie qui, en définitive, dépasse toute autre préoccupation, me semble-t-il. Alors, Leïla, nous n'avons pas dit que vous avez animé une émission sur la chaîne 3 Alger.
Oui, il y a très longtemps.
Voilà. Vous êtes quand même une grande familière des émissions de radio.
Hein, exact.
Puisque je crois, si mes souvenirs sont bons, que vous avez même travaillé avec Jean Sénac.
Exact,
hein,
oui, voilà, exact. Radio avec Alger. Jean Sénac.
Avec Jean Sénac. Oui. Voilà. Donc, c'est très important.
Elle a fait un excellent documentaire sur la cité romaine de Djémila, sur un
Un
texte
texte
de
de Malek
Haddad
Haddad.
qu'elle lisait. Et donc.
Et avec Jean Sénac, j'ai même réalisé un film sur Anna Gréqui qu'il avait fait à l'époque. Et je lisais les poèmes d'Anna Gréqui et Jean Sénac était là derrière qui me regardait, il disait, il faut faire ça, il faut faire ci. C'était épatant, une époque magnifique que nous avons vécue. Et avec Sénac et avec Jamel Amrani. Et Majid Kawa
Et
actuellement,
tous
bien
deux étaient
sûr.
des hommes de radio, il faut le signaler.
Oui.
Jamel a animé une
Oui,
émission de poésie, Sénac aussi.
Pour la radio, c'est un vecteur extraordinaire pour
Tout
la
à fait,
poésie. Hein.
oui.
Autant la télévision, c'est les images qui l'emportent, donc c'est difficile, mais la radio, ça porte la parole, donc il n'y a pas de problème. Alors, 1994, tu publies chez Michel Cauzin, tu publies également, tu vas nous en parler, le nœud de Garonne,
Le nœud de
hein?
Garonne,
Oui,
c'était
qui a
aux
été
éditions Autre-Temps,
aux éditions
à Marseille, avec
Oui.
Gérard Bruyat,
Oui.
que nous saluons de loin.
Alors, des
Poète
recueils
lui-même.
parus aussi chez Encre Vive,
Encre
pardon,
vive de
de
plusieurs
Michel
recueils,
Cauzin, Pierre
Michel
Auteuil,
Cauzin a eu la
oui, on va
gentillesse
oui.
de me donner l'occasion de publier plusieurs recueils chez lui. Et l'un m'a permis d'obtenir un prix, hein, le seul que j'ai jusqu'à présent, et que donc il revêt chez moi une valeur symbolique. C'est le prix, un prix décerné aux Journées internationales de poésie de Rodez, qui
Oui,
n'existe plus, ce qui rend encore plus donc attachant
il y
ce
avait le prix
prix.
Artaud, il y avait le prix
C'était
Bouronca
sous du vivant du regretté Jean
Jean
Digault.
Digault,
Voilà.
oui, à Rodez. Alors, tu as publié quand même une anthologie excessivement importante, c'est l'anthologie de la poésie
De
algérienne,
langue
de
française
langue
ou de
française.
graphie
Voilà,
française, comme aimait à le
ah
dire
oui,
Sénac.
d'accord. Bon, qui est
C'est
j'ai
peut-être
vu
une
qu'il y a
coquetterie, mais
oui.
c'est important de le dire.
Alors, qui fait maintenant référence, et là on voit d'ailleurs la richesse extraordinaire quand même de cette poésie hein, dans la poésie francophone en général, la place
Oui,
qu'elle est.
j'ai eu la divine surprise de voir les éditions Point, qui
Oui, alors c'est
appartiennent
dans
au
la
Seuil,
collection Point, donc cette édition de grande diffusion,
poche, oui,
hein, en poche, en
de
poche.
reprendre cette anthologie sous le titre c'est un vers en fait de Mohamed Dib, Quand la nuit se brise. Voilà, donc sous ce titre, il y avait déjà eu disons, une mouture qui avait paru aux éditions Autre-Temps aussi en 2004.
Et alors, maintenant, Majid, tu viens nous présenter une anthologie qui est une anthologie Abdel
Personnel.
Majid Kawa, donc une anthologie personnelle, parue chez un éditeur algérois, si j'ai bien compris,
Oui,
hein, dont tu vas nous parler.
c'est les éditions Arak Édition. C'est quelqu'un qui vient de se lancer courageusement dans l'édition. Il vient de publier plusieurs titres et mettre en place plusieurs collections. Ça va de l'économie, en passant par la cuisine, jusqu'à la poésie, un genre qui n'est pas très commercial, mais qu'il a eu le courage d'aborder. Et donc il y a maintenant une collection, j'ai en quelque sorte inauguré cette collection en poésie qui s'intitule Bahr. Bahr, c'est un mot en arabe qui a un double sens, qui veut dire à la fois vert, et qui veut dire mer,
Mer.
donc et profondeur, donc la poésie. Donc premier titre qui vient de sortir, avec beaucoup de sacrifices de sa part. La diffusion est déjà problématique en Algérie, encore plus en France. C'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup d'exemplaires et que là, sous les yeux, nous avons un exemple exemplaires témoins, et j'espère que les recueils vont bientôt arriver grâce à la bonne volonté des structures qui s'occupent de diffusion entre l'Algérie et la France.
Il y aura aussi une commande par un site internet, parce que maintenant, je crois que c'est le...
Oui, c'est possible, mais le problème, c'est que c'est la reconversion, c'est que le dinar algérien n'est pas reconvertible, n'est pas une devise. Mais bon, il y a maintenant beaucoup de possibilités, puisque l'Algérie a embrassé officiellement l'économie de marché, elle s'inscrit dans cette mondialisation. J'espère que la poésie va
de
cela.
Alors, cette anthologie est intitulée « Que pèse une vitre qu'on brise ?»
Oui.
C'est quoi ce titre?
C'est un titre que j'ai porté depuis très longtemps, d'ailleurs, au point où certains qui me connaissent m'ont dit « Mais enfin, tu as pu placer ça, il a fallu 30 ans ». Je dirais que, en fait, ce titre n'est pas de moi. Mais je ne dirais pas de qui, mais
alors,
pour laisser
ma question,
c'est un grand poète français.
Oui.
J'ai bien aimé ce...
C'est une très belle image.
Bon, j'ajouterais que c'est d'une inspiration à la fois surréaliste. J'ai beaucoup aimé le surréalisme, j'ai beaucoup été marqué par le surréalisme. Le surréalisme, une certaine veine du surréalisme, pas l'écriture automatique en elle-même qui pouvait avoir ses limites, mais le surréalisme engagé dans les problèmes de notre temps, et on connaît donc, on trouvera facilement qui est l'auteur de cet aphorisme. C'est un aphorisme, et donc je pense qu'il résume un peu... il y a 30 ans ou plus, je l'ai découvert et je trouve qu'il est toujours aussi pertinent. C'est une sorte de métaphore de l'aventure humaine, du poète, au-delà de ma propre personne, parce que j'aime écrire une poésie qui concerne surtout les autres, et que moi-même je ne suis qu'un petit vecteur de l'expression des autres. Donc voilà, j'ai repris une sorte de petit temps, disons pas d'anthologie, mais un florilège de 1972 à 2014. De chaque période, j'ai choisi quelques poèmes. Et comme il est dit dans la présentation, si l'inspiration est diverse, la voix, elle reste la même. J'espère, je ne sais pas ce qu'il y a aux autres de dire. Est-ce qu'il y a une unité, une cohérence poétique dans ce petit, parce qu'on ne pouvait pas faire plus. Au départ, il était question de faire une véritable somme poétique. Mais il faut signaler que quand même, il y a une hors-série de 8 reproductions de peinture d'un ami artiste peintre qui vit en Belgique, un ami de jeunesse que nous nous sommes retrouvés à cette occasion. Il a donné 8 tableaux donc qui sont reproduits dans le recueil. La couverture aussi est j'ai pas cité le nom, c'est un ami donc de jeunesse, Jamel Merbah. Et puis la couverture a été réalisée à la fois par l'éditeur et un ami peintre, Oussama Abdeldaïem, quelqu'un qui a beaucoup s'est beaucoup investi dans la promotion de la poésie en accompagnant des poètes, parce que il y a eu toute une partie à découvrir ou à redécouvrir grâce au travail de Michel-Georges Bernard, qui était à l'époque coopérant, qui est un monsieur qui a écrit des ouvrages de référence sur la peinture, la poésie, lui-même est poète. Donc il a été en poste en Algérie. Il avait lancé, avec des poètes et des peintres algériens, les éditions L'Oricte. L'Oricte, c'est du nom d'un petit insecte qu'on ne trouve que dans la ville d'Aumale, précédemment Solrosen, ce qui veut dire le rempart des gazelles, où travaillait et vivait en coopération Michel-Georges Bernard. Ceux qui connaissent la poésie, la peinture, savent ce que l'on doit à ce monsieur. Il a écrit, par exemple, dans la collection Seguers, un livre consacré à Bachelard, le poète Bachelard, moins connu peut-être. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. C'est à la fois la résurrection de plusieurs segments d'époque, parce que bon, l'Algérie est entrée dans une tragédie sans nom dans les années 90, et donc c'est comme disons, l'Algérie ne peut pas être réduite uniquement à cette séquence historique horrible, certes, tragique, où les poètes ont payé les premiers le prix de cette situation. Alors je cite Sénac, déjà, en pionnier dans la poésie, dans la radio, dans l'édition, et pionnier dans le sacrifice, puisqu'il a été assassiné, lui, en 1973. Et puis ensuite, dans les années 90, Tahar Kaout, Youssef Sebti, Abdelkader Allula, grand dramaturge et poète à sa façon, et d'autres et d'autres, très nombreux poètes, écrivains, journalistes, intellectuels. Et donc, c'est un peu un hommage à cela. En toute modestie, voilà ce que je dois à chacun d'eux, notamment à quelqu'un comme Tanjaout, qui aujourd'hui est connu plus que de son vivant. Et dans son vivant, c'était un homme d'une grande simplicité, d'une grande modestie. On est loin d'imaginer, comme dit Hugo, citons-le quand même, il a tout dit, quand l'homme tombe, le nom grandit. Mais en fait, il faudrait que l'homme et le nom
Grandissent
soient
ensemble,
honorés et grandissent ensemble. C'est ce que vous voulez dire, Hugo, dans cette pensée.
Est-ce qu'il y a des textes nouveaux dans cette anthologie qui n'ont pas été publiés?
Oui, il y a des textes nouveaux. Malheureusement, je n'ai que les textes. Oui, tiens, un texte qui a été publié, mais je pense que c'est une manière de rendre hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter, un peintre génial qui s'appelle Mokrani, notre petit Van Gogh, et qui s'est donné la mort
C'est
il y a
suicidé, oui, il y a
3 jours,
quelques jours, oui.
4 jours. J'aimerais lui rendre hommage à cette occasion en lisant ce poème. Que j'avais improvisé à la suite d'une rencontre. Voilà. La pierre buta contre l'arbre. Le passant, sans se retourner, fit don de ses yeux au corbeau. Longtemps après, on dit que c'était l'année du chien. Le sang à profusion aura jailli des peurs, des matins étranglés. Combien de complices entourant les corbeaux honorèrent son supplice. Pauvre vérité, pitoyables appétits. Sur les murs cholés de blanc, des femmes au noir apposèrent quelques talismans. Feuilles de laurier amères en stigmate du règne de l'oubli. Entre le roseau et son maître, il y a la distance, la violence retenue, de l'eau lustrale des défunts. Dans la nuit ouverte, le roseau se fait calame, traçant de larges entailles sanglantes sur la chair retorse des lauriers roses, spectre luminescent habité par les lucioles. Le naï se garde et darde ses notes, strident ses litanies, son désespoir fondra, fauquant de l'extrême âme sur la première passante, victime inaugurale des roses de sable. Le roseau se fait calame, oriflamme, la braise est preste et le talisman n'y pourra rien. À la première passante, les bardes ouvrent la poitrine, d'où s'envolent des songes de sel et de jasmin croisés sur des destriers aiguillonnés par la fulgurance du calame. Commence alors le règne, son passage du naï. Alors le naï, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est un mot en arabe, mais ce n'est pas de leur faute, c'est une flûte, tout simplement, à partir d'un roseau. Et ça symbolise dans la culture arabe, orientale, etc., le chant dans sa, dans ce qu'il a de plus haut et de plus pur. Alors, on peut par exemple penser à cette grande chanteuse, cette grande cantatrice libanaise, Fayrouz, qui elle chante justement un poème d'un grand poète libanais qui s'intitule Donne-moi le naï, et donne-moi la parole, en fait. Voilà.
Et le kalam, c'est le...
C'est aussi la parole, c'est oui. Ça a plusieurs sens, oui. Effectivement. Oui. C'est l'instrument, oui. Et c'est aussi la pensée,
le verbe
et la pensée. Donc, et c'est important Bon, moi j'écris en français, j'essaye de trouver des équivalents, c'est pas évident, hein, parce que il faut être un Adonis, quoi.
Alors on va continuer peut-être avec Leïla, qui va lire donc
un autre poème de Majid Kawa. Toi qui cherches le sens des mots, la beauté dans les lignes des mains et l'espoir dans les chiffres, tu iras par les chemins difficiles, des points et des sensus, des murs et des aiguilles, tu iras par les chemins durs, pour prouver que les mots ont souvent un sens. Quand même toutes les mains ne sont pas habituées à la tenir. Tu iras par le sel et l'algue, par les chemins où l'homme tient sa peau si fragile, comme un vieil étendard de désir. Tu iras par des chemins obscurs, de nuit en nuit, un peu plus délivré du poids de ta frayeur. Des hommes lèveront sur toi la main et la peur naîtra de tes propres certitudes. Toi qui cherches le sens de ta présence, tu aimeras longuement avant de découvrir la violence de l'amour. Et les portes de la tendresse te seront longuement interdites. Tu croiras parfois que ton désir est la dernière porte à ouvrir, mais longtemps encore, tu continueras à te chercher avant de t'ouvrir à la profonde parole qui t'attend à la dernière halte de ta faiblesse. Quelque chose a craqué. Dans le noir de tes yeux, est-ce ton désir? Est-ce cette étoile impure qui te voue à l'errance? Est-ce un grain qui assure sa présence sous le sommeil de la neige? Quelque chose a craqué. Dans le noir de tes yeux, quelque chose de dur qui n'est qu'à la douleur et qui n'est pas une réponse définitive. Aux postures lancinantes de notre attente, quelque chose a craqué. Dans le noir de notre nuit, une branche de laurier échappée à la fatalité de l'ouest, quelque chose a craqué. Dans le noir de la mémoire, l'orgueil du feu assumé par les casbas, l'amour faisant violence à demain, quelque chose a craqué dans le noir des miroirs. Désormais, nous nous regarderons de toute la hauteur de notre nudité.
Désirer les mots à l'image de mes amitiés et des soirs bavards qui aident les hommes à comprendre les oiseaux, la sève des arbres. J'ai creusé les mots dans l'alphabet de la neige afin qu'ils ne soient pas définitifs. Ça, c'est un texte qui date un peu. Et puis, en écho, un texte d'aujourd'hui. Un jour, j'écrirai un long poème, sans colère ni haine, interminable poème tissé. Du sang, de la peau, de l'eau, de l'air, du feu, de tant d'autres poèmes surgis de la nuit des temps de pleine lumière, d'âge obscur où seul le rythme des pieds de l'homme brisé en mille cristaux de bruit, le silence de son existence, un lent, un interminable poème, chemins et sentiers, tunnels et souterrains des longues peines humaines, des cinq continents, tambours d'alerte, masques de mystère, un long, un inépuisable poème contre la misère.
La maison livide. À Serge Pey, poète, auteur de Interrogatoire pour les assassins de Taraf Shahout. Te souvient-il, ombre errante? Bachtara, Jamel, Rachid, Mustafa, Nabil, Lounès. Ici siège la maison livide aux pièces sanguinolentes où s'échangent de longs bavardages sur les mystères sanguinaires des parkings. Te souvient-il, ombre errante? Youssef. Le moineau prodigieux, t'accompagnant dans sa R4 bleue, au sortir d'une arabiette alambiquée, qui a dit que le Christ ne s'était pas arrêté à El Harash, entre folie et enfer? Te souvient-il, ombre errante, il revenait du travail, à la rencontre de ses deux anges, mais ses voisins vivent dans le mensonge. Que dire sinon un silence à ma sœur Yasmina qui porte le deuil du jasmin, qu'écrire après que les balles aient tracé la mort sur la poitrine de mon frère, quand Lounès rencontra son étoile, je ne lui tenais pas l'échelle du ciel. Ici, Bachafar, la maison livide, dévoreuse de cœur, tisseuse de linceul par perfidie, et j'ai maudit le téléphone, l'ai lancé comme une pierre sur le malheur, surgi dans l'écouteur, j'ai piétiné le jardin, les feuilles mortes, ouvert le portail, marché pieds nus sur l'asphalte de l'exil. Maison livide, faut-il encore en appeler à la vie, dans ces cages d'escalier. La rage pousse. Où la rage pousse comme le chien dent, on affûte les larmes contre le béton et l'on arme la haine à coups de verset inversé, tandis qu'Ahidra en domestique le monstre à force de faste et de dialogue avec le néant. Faut-il toujours en appeler à la mort pour passer par pertes et profits les mille et une impostures de ce ciel anthropophage qui moissonne les têtes pour combler le déficit alimentaire dans cette cité où ne foisonnent plus que les rubriques nécrologiques et les communiqués suaires expéditifs. Ici, maison livide, pendant que la mer surchargée d'immondices continue vague après vague à rouler son écume contre les galets. Maison livide, est-ce Voructus, dieu des limbes, au nom desquels on donne la mort après la vie, auquel on confie le dernier terrassé après la dernière des pêches? Te souvient-il, ombre errante? Ici, Bachara, la maison livide, dévoreuse de cœur, tisseuse de la seule, peut-il parfois en appeler à quelque chose? La mer continue, vague après vague,
sont les plus.
Il est magnifique ce poème, il est magnifique.
C'est un poème où je rends hommage à un grand peintre algérien, Fada. Tu te surprendras par un soir d'été, accablé de liberté dans les réseaux du désordre. Peu importe les sarcasmes et les rires, ils nous ont devancé les orages humains de l'humanité. L'iode et le sel, les œufs dans les blessures béantes, les rossignols et leurs nids débridés, le meuglement des coquelicots, le givre des veines, tous les signes d'évidence, tous les talismans inachevés, les foires aux alphabets, et ce grimoire séditieux que tu sais, pour naviguer sur l'étendue d'un détournement d'étoiles, et enfin, prolonger et l'arbre et le fruit en cascade de calligraphie et en sourate de poussière. Ce soleil qui ne nous dit plus bonjour, comme au jour de bonté, dans cette immense arithmétique des cicatrices, l'arbre à peine élancé, déjà transfuse de la nostalgie. C'était ton visage, la beauté d'un mensonge débusqué dans les simagrées de la cohue. Le froid a tout ordonné jusqu'à l'orgueil. Oui, il faut se lever chaque matin à une heure humaine, mais à quelle humaine horloge expier les pétales calcinés? Plus tard, du choc de nos mains glacées, fusera l'ocre rêve d'aimer, et nous n'assisterons plus au départ de nos derniers amis.
Les portes de l'exil s'ouvrent à Blagnac,
oui.
À Zouheir. Qu'est-ce qu'un aéroport, sinon une fourmilière, des sueurs humaines, adossées sur des latitudes incertaines. Homme que voici, chargé de valises, de confiseries déconfites, de caprices démodés, tu possèdes un visage, soumis au simagré du miroir. Peux-tu prouver aux professionnels des macrèches, comme disait Rimbaud, les vigiles des frontières aux lointains ancêtres qui eurent affaire à Ibn Battuta, à Rimbaud, à Yessénine, à Yassine. De quelle patrie tiens-tu ton destin? Dans un passeport, aussi vert que le printemps, qui vire à présent au noir? Qu'est-ce qu'un aéroport? Sinon un commerce de l'absence, une maison close puante de nostalgie, où tu croises ta propre image, dans un dédale de souvenirs. Ici s'entrelacent les mémoires blessées, rompues, recousues à coups de tabac et d'alcool. Zohir vole vers sa mère. Hippone n'attend plus rien des remèdes de Saint-Augustin. Dans une lourde valise, minuit consommé, le larron range ses souvenirs dans les boîtes de conserve. Zohir est sur liste d'attente. Ô mon pays, de longue patience, livré aux arracheurs de dents, reconverti dans l'informatique, qu'est-ce qu'un aéroport? Sinon de longs couloirs, où l'on conjure l'oubli, où l'on se reconstruit, une patrie entre water et vacuité. Zohir ne vole pas. Immolé Ismaïl, les couteaux blancs de la supercherie ont tranché tant de coups inconformes que les rosaires des mers et ont perdu leur grain. Ami, pendant que tu voles vers le soleil corrompu, je parcours les clés de l'aéroport de mes insomnies, toujours interdits d'écran pour son soldat perdu. À Blagnac, on sert des liqueurs blanches anesthésiantes. Thank you. de la même pâleur que ma capitale, que je ne nomme plus que par Anna Greki, fourvoyée, foudroyée par la blancheur de l'espérance trahie. Qu'est-ce qu'un aéroport, sinon une fourmilière de sueurs humaines adossées les portes de l'exil, s'ouvre sa blagnac.
Je peux poser la question, ce va-et-vient, comment le ressens-tu maintenant?
Il y a des textes qui résonnent d'une manière assez dure, mais 20 ans après, je pense que je puis dire que j'ai atteint une certaine sérénité. Je les ai, disons, placés dans ce petit florilège à titre de, disons, de témoignage d'un chemin. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas sous les yeux toute la dernière partie des textes écrits récemment. Ça sera peut-être le prétexte
de la sérénité, les textes de la...
Je pense, oui, de...
Un apaisement.
De l'apaisement, et dans cet apaisement, il y a bien sûr le souvenir du village natal qui intervient comme une sorte de baume. Il y a aussi la découverte de la France profonde, hein, de pays... d'une grande beauté et d'une grande, symbolique pour moi, qui est connue la France à travers les livres et qui aujourd'hui découvre la France,
dans sa matérialité.
Dans sa matérialité, dans sa chair, dans un pays qui me parle, parce que grâce au livre, j'en connais un peu l'histoire, les déboires aussi, parce que, et je me dis qu'il faut en tirer aussi une leçon, c'est-à-dire que le malheur est aussi quelque chose qui concerne tous les hommes, et chacun, à un moment ou l'autre de l'histoire, a eu son lot de malheurs, les Français comme les Algériens. Les Algériens et les Français, entre eux aussi, ont eu une histoire assez dure, dont les cicatrices continuent à parler, et qui, mieux que les poètes, puisque nous avons aimé, surtout les poètes de la France, qui nous ont appris, des grandes leçons de fraternité, de générosité, qui, pour la plupart, n'ont jamais trahi ses convictions, alors que, bon, peut-être les hommes politiques oublient facilement les engagements, les poètes, et puis c'est pour une manière de rendre hommage au titre de son émission. Les poètes, il y a de beaux textes d'Aragon, hein, sur les poètes. Donc voilà, c'est un peu tout ça. La poésie, c'est un petit miracle, c'est-à-dire en quelques pages, on peut dire ce que un romancier écrit sur 500 pages. Oui, voilà. Donc c'est l'art de la métaphore, l'art du raccourci. C'est au lecteur de juger.
Et on peut dire aussi que tu as un pied dans chaque pays maintenant, quand même, oui. Majid, puisque tu es...
Oui, je reviens du salon
d'Alger News.
Oui, maintenant du soir d'Algérie.
Voilà, le soir d'Algérie, dont tu produis des articles de façon permanente sur l'actualité de ce qui se passe en Algérie.
Chronique des deux livres. Donc je vis entre, justement, j'habite les deux livres, hein, vraiment. Et ce mot a tout son sens dans la poésie, puisque la poésie, c'est l'universalité par excellence.
Alors on va finir, s'il le veut bien, Majid, par un texte que va nous lire Leïla, ou Majid, toi-même.
C'est finir bon, sur un texte. Un poème peut-être plus optimiste, hein. que j'aime beaucoup, puisque nous ne sommes pas très loin de cette belle ville que
Barcelone.
Barcelone, hein. Donc, c'est des textes qui datent et que j'ai actualisés, hein. Ça s'intitule Le paquebot mélancolique, Barcelone 1. Deux fois le diamètre du soleil, je t'invente à ma mesure pour te délivrer des murènes. Deux fois le sens du verbe aimer, ma rage plantée dans tes yeux qui ne peuvent plus espionner. Je t'ordonne de démissionner de mes jardins de sueur. C'était son oiseau à elle, c'était sa femme à lui. L'oiseau le trompe avec elle et lui croit les posséder. C'était son oiseau de nuit à elle, c'était sa femme de jour à lui et lui son visage. Cependant, le ver est traître. Il détache la tendresse de ses ailes tachées de lumières économes, tout cela à cause d'un citron nerveux qui a insulté le ciel présomptueux, tout cela à la sortie des usines, dans une grande ville en chagrin qui se déshabille patiemment dans ses chagrins. C'est un poème écrit après la visite du musée de Miro. Et donc j'ai essayé de rendre par les mots les impressions multiples et contradictoires que j'ai eues en découvrant l'œuvre de Miro, que je connaissais très partiellement en étant en Algérie. Et je termine par cette conclusion surréaliste, hein. De toute manière, la géométrie est une question érotique. Et la guitare, un souci de vieillard. Mais à coup, les pluies tropicales sur les têtes des contremaîtres. De toute manière, le dernier cri est venu du port. Était-ce un paquebot mélancolique en partance pour le Pérou? Était-ce le soubresaut estival d'une fin de journée sans grève? Était-ce l'élancement d'une guitare d'orphelinat? De toute manière, le dernier cri est venu du port.
Merci, Majid, surtout d'avoir terminé sur Barcelone, qui est une ville que j'affectionne, comme chacun sait. J'y étais il n'y a pas longtemps.
Avec de
Merci,
grands poètes.
Merci, Leïla, avec de très grands poètes. Oui. Merci, Leïla. Alors, on rappelle le titre de cette anthologie, Que pèse une vitre qu'on brise, aux éditions, rappelle-nous ces éditions.
Arak Édition, Alger, 2014. Voilà. Et nous espérons avoir bientôt des exemplaires et faire des lectures à travers quelques bonnes librairies de Toulouse.
Bien sûr.
Et peut-être même dans d'autres villes de France, comme à Montauban, à Montpellier, à Marseille.
Bon, nous en reparlerons.
Oui.
De toute façon, merci encore, donc, Leïla,
merci
Majid.
Merci à toi.
Et à très très bientôt. À très bientôt. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Citanio et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.